Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en IGF-1 et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Athanasia Stupa. Docteur Stupa, bonjour.
Bonjour à tous.
Docteur Stupa, vous êtes endocrinologue pédiatre au sein du service d'endocrinologie, gynécologie et diabétologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et vous êtes également médecin-chercheur au sein de l'équipe du professeur Polak de l'Institut Imagine. Alors tout d'abord, docteur Stupa, quand suspecter un déficit en IGF-1 ?
Un déficit en IGF-1, il doit être évoqué devant un tableau clinique qui associe un retard statural, défini en fait comme une taille qui est de plus de 2 écarts types sur la moyenne pour l'âge de l'enfant, avec un profil de sécrétion de l'hormone de croissance qui est normal et aussi avec un taux d'IGF-1 qui est abaissé, soit inférieur à 2,5 centiles pour l'âge et le sexe. Il faudra également aussi exclure toute forme secondaire de déficit en IGF-1.
Et comment effectuer le diagnostic de ce déficit en IGF-1?
Le diagnostic de déficit primaire en IGF-1, il est basé sur plusieurs critères. Tout d'abord, il y a une évaluation oxologique avec l'étude en fait de la courbe de croissance de l'enfant, la courbe de la taille et du poids. Ensuite, on effectue des dosages biologiques, notamment un dosage de taux d'IGF-1 et associé à un taux de IGF-BP3, protéine de transport. Et par la suite, il faudra aussi évaluer la sécrétion de l'hormone de croissance et écarter autre cause de faible croissance, comme des maladies organiques ou des maladies osseuses constitutionnelles.
Alors justement, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, il y a plusieurs pathologies qu'il faut qu'on écarte quand on pose le diagnostic de déficit primaire en IGF-1. Tout d'abord, le diagnostic différentiel, il doit inclure l'insuffisance somatotrope et la résistance aux hormones de croissance. Il faudra également exclure le retard de croissance par déficit en protéines de transport d'IGF-1, notamment le déficit en sous-unité acide labile ou la protéine ALS. D'autre côté, il faut qu'on exclue aussi des déficits secondaires en IGF-1 dû à une atteinte hépatique, une malnutrition, une maladie inflammatoire chronique ou une atteinte thyroïdienne, une hypothyroïdie. Et il ne faudra pas oublier et toujours évoquer les syndromes où on peut rencontrer justement des retards staturaux avec des taux d'IGF-1 abaissés, notamment le syndrome de Silver-Russell, le syndrome 3M et le syndrome de Noonan ou d'autres rhabdopathies.
Alors, vous l'avez dit, il s'agit d'une maladie génétique. Chez ces patients, quelle est l'importance justement du conseil génétique?
Le conseil génétique dans le cas de déficit primaire en IGF-1 est très, très important et dont il offre justement l'opportunité et l'avantage aux autres membres de la fratrie de dépistage. Ils doivent être informés de risques de récurrence de la maladie et ça offre également la prévention et la prise en charge d'autres maladies associées. Donc, le profil biologique, en tout cas, il peut nous orienter vers le type de la mutation et quand on parle de cause moléculaire et de conseil génétique, il faudra penser des mutations de gènes qui codent pour le récepteur de l'hormone de croissance, des anomalies de la signalisation de l'hormone de croissance et de voie IGF-1, des mutations de délétion de gènes qui codent pour le IGF-1 et aussi des anomalies dans des gènes qui encodent pour des protéines de transport d'IGF-1.
Et une fois que le diagnostic a été formellement établi, à qui adresser ces patients ?
Justement, en fait, il faudra les adresser vers un centre de compétences des références des maladies rares à qui ont l'expertise en fait pour gérer et pour prendre en charge la maladie. Il faudra justement une approche par une équipe pluridisciplinaire qui associe des pédiatres endocrinologues, des hormonologistes, biologistes et des généticiens parce que on va confirmer le diagnostic et par la suite pour l'indication en fait de traitement pour traiter ces enfants qui ont des retards statuels. On réalise des bilans préthérapeutiques avec des examens complémentaires.
Eh bien, merci mille fois, docteur Stupa, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en IGF-1. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.